Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. C'est un cessez-le-feu en forme de défaite pour l'Arménie. Fin des combats actés hier soir dans le Haut-Karabakh avec l'Azerbaïdjan. Aux manettes, le russe Vladimir Poutine qui leur a fait signer le texte hier face caméra, vous l'entendrez. Dans ce journal encore, les arguments du ministère de l'Éducation face à ceux du SNES-FSU. Pour ou contre les cours à distance dans les collèges, ce mardi, une grève est annoncée chez les enseignants. Face au Covid-19, un vaccin pourrait voir le jour rapidement. En tout cas, des laboratoires américains et allemands l'ont annoncé hier. Et puis, Donald Trump va-t-il saborder une partie de son gouvernement avant de quitter la Maison-Blanche ? Il a en tout cas limogé son secrétaire d'État à la Défense. Analyse dans cette édition. Et l'on commence donc par ce cessez-le-feu signé tard hier soir entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, sous l'égide de la Russie. C'est d'ailleurs Vladimir Poutine, président russe, qui s'est exprimé en personne sur cet accord à la télévision.
Aujourd'hui, le 9 novembre, le président de l'Azerbaïdjan, Aliyev, le premier ministre de l'Arménie, Pachinian, et le président de la Fédération de Russie ont signé une déclaration annonçant un cessez-le-feu total et la fin de toutes les actions militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabakh à partir de minuit, le 10 novembre, heure de Moscou. Les républiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan conservent leur position actuelle.
C'est bien ces positions conservées qui ne passent pas en Arménie. Cet accord est un acte de défaite selon les Arméniens, car ils perdent une partie des terres qu'ils occupaient il y a encore un mois et demi avant la reprise du conflit dans le Haut-Karabakh. Une foule de milliers de manifestants en colère s'est rassemblée hier soir aux abords du siège du gouvernement arménien à Erevan. Idem au siège du Parlement. Et puis dans la nuit, la Russie a déployé près de 2000 soldats dans le Haut-Karabakh pour s'assurer du respect du texte. Julie Gacon évoquera plus longuement cette situation entre Arméniens et Azerbaïdjanais avec son invité dans les matins, dans les petits matins de France Culture à 6h45, c'est-à-dire dans moins d'un quart d'heure. Pour le moment, il est 6h32, vous écoutez toujours France Culture. Pour la deuxième vague de Covid-19, la France n'avait pas encore connu autant de décès à l'hôpital en 24 heures. 551 nouveaux morts hier, c'est le bilan annoncé par le directeur général de la Santé. Jérôme Salomon prévient également, le pic de l'épidémie de cette deuxième vague est encore devant nous. Et c'est dans ce contexte qu'une journée de grève est organisée aujourd'hui dans les établissements scolaires. L'intersyndicale des enseignants, le SNES-FSU en tête, dénonce le protocole sanitaire dans les écoles, car si les lycées doivent proposer la moitié de leurs cours à distance pour les élèves, cette hybridation ne concerne pas le primaire et le collège. Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, s'en explique.
Alors l'organisation des collèges et des lycées n'a rien à voir, puisque d'abord alors, en termes de taille, les lycées constituent généralement les plus gros établissements, là où l'immense majorité des collèges sont des établissements qui sont à peu près deux fois plus petits ou trois fois plus petits que les lycées, première chose. Et deuxième chose, les lycées sont caractérisés par un brassage beaucoup plus important d'élèves, notamment entre cours, ce qui est nettement moins le cas des collèges. Donc voilà, aujourd'hui, à la lumière de l'ensemble de ces éléments et aussi des observations qu'on peut faire sur le terrain, les règles qu'on a fixées s'appliquent effectivement pour les lycées.
Alors pour lui répondre, la secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, majoritaire dans le secondaire, était hier soir l'invitée du journal de 22h sur France Culture, Sophie Vénétité.
On a aussi des classes surchargées, on peut avoir jusqu'à 28 ou 30 élèves dans une même salle de classe sans aucune place disponible avec des fenêtres qui s'ouvrent très peu. Tous ces élèves-là se retrouvent à la cantine dans de mêmes conditions et à la cantine aussi, ils enlèvent leurs masques comme les lycéens. On les retrouve aussi dans les couloirs, on a aussi un problème de nettoyage et de désinfection des établissements scolaires. Donc la situation des collèges est bien souvent comparable à celle des lycées, il n'y a pas de raison de les laisser à part d'un protocole sanitaire renforcé.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi et Stanislas Vazak. Ajoutons par ailleurs qu'un million de tests antigéniques vont être déployés dans les établissements scolaires ces prochains jours. Ils seront réservés au personnel. Les élèves ne sont pas concernés. En Grande-Bretagne, c'est une opération massive de tests qui a eu lieu dans la ville de Liverpool. Une grande partie de la population a déjà fait la queue pour accéder à ces tests et pour avoir un résultat dans l'heure. 2 2000 soldats sont venus aider les services de santé à Liverpool. Richard Place s'est rendu dans l'une des salles réquisitionnées par les autorités. Voici son reportage.
Devant le club de tennis, Lorraine attend son tour. Masquée, cette trentenaire observe les militaires qui ont pris possession des lieux. Une scène a priori bizarre.
Il y a quelques mois, j'aurais trouvé ça très étrange. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est normal, mais je m'y fais, j'imagine.
À l'intérieur, sur les cours de tennis couverts, Paul, 73 ans, suit la procédure que lui indique un soldat en uniforme.
Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est ouvrir l'emballage de l'écouvillon.
Le septuagénaire s'exécute dans un petit box de 4 mètres carrés.
Et vous allez le mettre au fond de votre gorge, puis le frotter trois fois de chaque côté. C'est désagréable, si ça vous donne des haut-le-cœur ou si ça vous fait tousser, c'est que vous le faites bien.
Il tout saute et a les yeux humides, mais Paul est satisfait.
C'est fait, c'est bien organisé. 10 minutes et c'est réglé. Épatant.
Une fois les couvillons récupérés, les militaires le trempent dans quelques gouttes de réactif. Puis ils attendent de voir apparaître un marqueur, un peu comme un test de grossesse. Le résultat est envoyé par SMS ou par mail, si besoin même, un coup de fil. Le résultat, c'est ce que Suzanne attend désormais.
Nous sommes face à une pandémie, alors essayons de la ralentir pour la garder sous contrôle.
Selon le maire de Liverpool, en 3 jours, plus de 23 000 personnes ont été testées. Encourageant, mais on est encore loin des 500 000 espérés.
Richard Place à Liverpool pour France Culture. Dans la course au vaccin maintenant contre le Covid-19, 2 laboratoires annoncent avoir déployé et développé ensemble un vaccin efficace à 90%. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et l'allemand BioNTech. Ces résultats proviennent en fait du début du 3e et dernier essai avant une demande d'homologation. Les détails dans le journal de 7h de France Culture, où nous irons aussi aux États-Unis puisque Joe Biden, le président élu, a appelé hier à la prudence face à cette annonce. Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, Donald Trump, lui, veut montrer qu'il est toujours président des États-Unis. Il a licencié hier son secrétaire d'État à la Défense, Frank Madvon.
Le limogeage de Mark Esper n'est pas une énorme surprise. Le chef du Pentagone avait agacé Donald Trump en refusant d'envoyer des soldats mettre de l'ordre dans les manifestations contre les violences policières, comme le souhaitait le président. Pas une surprise donc, mais un geste fort au début de la transition. Le successeur d'Esper, Christopher Miller, est peu expérimenté. Donald Trump pourrait lui imposer ses grands desseins, le retrait total des troupes d'Afghanistan ou d'Irak par exemple, voire une opération militaire en fin de mandat. Trump montre en tout cas qu'il reste aux commandes et ne sera pas magnanime avec ceux qui le dérangent. D'autres responsables seraient sur la sellette, le patron du FBI, la directrice de la CIA ou encore Anthony Fauci, le célèbre immunologue qui pilote la lutte anti-Covid. Donald Trump n'a aujourd'hui aucun rendez-vous officiel à son agenda, comme chaque jour ou presque depuis un mois. Entouré de ses derniers fidèles, l'actuel président conteste sa défaite et ne fera certainement pas le moindre effort pour faciliter la transition.
Franck Madvon, nous en venons maintenant à ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Madrid. Procès des attentats de Barcelone en pleine avenue de la Rambla et de Cambrils en août 2017. Au total, 15 personnes avaient été tuées par 5 terroristes abattus à l'époque. À la barre, donc, à partir d'aujourd'hui, ce sont 3 accusés que l'on entendra de potentiels complices, Mathieu de Taillac.
Aucun des 3 accusés n'était présent dans la camionnette qui tua 14 personnes sur la Rambla de Barcelone le 17 août 2017. Aucun non plus ne faisait partie du groupe de 5 terroristes qui, le lendemain, écrasaient tous les passants possibles avant de poignarder les piétons à Cambrils. Tous ces meurtriers directs ont été abattus par la police. Quant au cerveau qui a monté la cellule terroriste, un imam, il était mort avec quelques autres lors de l'explosion accidentelle de la maison où ils avaient accumulé les explosifs qu'ils pensaient utiliser lors d'attentats de plus grande envergure, notamment contre la Sagrada Familia et la Tour Eiffel. Restent donc 3 prévenus, âgés aujourd'hui d'entre 23 et 31 ans. Mohamed Ouli Chemlal risque 41 ans de prison. Le parquet l'accuse d'appartenance à organisation terroriste, de fabrication et de détention d'explosifs. Contre Driss Oukabir, le frère d'un des terroristes abattus, accusé des mêmes délits, le procureur réclame 36 ans. Oukabir a loué la camionnette utilisée sur la Rambla. Saïd Benyaza, enfin, est considéré complice et encourt 8 ans de prison. Outre les accusations du parquet, les prévenus feront face à une douzaine de parties civiles. 200 témoins doivent également être entendus lors de ce procès fleuve qui doit durer un mois.
Mathieu de Taillac depuis Madrid pour France Culture. Le temps sera gris et humide sur une partie de la France métropolitaine ce mardi, excepté sur le sud-est avec encore du soleil. Ce matin, il fait 6 degrés à Strasbourg, 11 à Lille et à Lyon, 12 degrés à Paris et à Bordeaux, 15 degrés à Perpignan.